On a un petit peu la pression puisqu'on a un représentant de chez Fayard qui nous dira à la fin si c'était bien ou pas. Mais la pression est sur vous aussi, public, parce qu'Aurélie apprécie particulièrement les rencontres dans les librairies. Donc ça sera l'occasion de voir si nous sommes à la hauteur de notre réputation. C'est donc le dixième roman d'Aurélie Valogne. Est-ce qu'il a un petit rapport avec le précédent? Alors j'ai regardé ce matin, le précédent qui est sorti en poche récemment est encore dans le top 10 des ventes.
Oui,
il n'est pas celui-ci.
Mais c'est assez incroyable, hein, la ferveur des romans qui sortent en poche. Parfois je vois la première semaine, mais ça fait des chiffres de fou. Qui rentre en librairie dès le premier jour de la sortie? Et l'autre jour, il y a une dame qui dit « Bah moi ?» Et je vais « Ah bah c'est vous alors ?» Parce que vraiment, je me dis, moi je sais que j'annonce surtout le grand format, la nouvelle histoire, et à la fin, toute fin, je finis par dire « Bah voilà, et en poche, il y aura aussi celui de l'année dernière. » Mais je le communique pas tant que ça, mais effectivement, L'Envol, c'est un roman qui me tient particulièrement à cœur.
Oui, j'ai regardé les ventes du mois de mars, là, il est encore numéro 9, je crois. Il y a plusieurs classements, mais enfin, ceux que j'ai trouvé numéro 9, alors que la lignée n'est pas encore apparue.
Non, mais c'est vrai que ça marche hyper bien. Et le format poche, c'est aussi un format qui nous permet déjà, un, d'être plus accessible à tout le monde. Oui. Deux, je les trouve très, très beaux dans leurs petits habits légers, transportables partout. Et puis effectivement, c'est une belle histoire qui dure depuis 10 ans avec le livre de poche, où chaque année, ils me chouchoutent au lancement notamment. Et donc, je pense que c'est aussi grâce à eux et aux lecteurs, évidemment, qu'il a des bonnes performances.
Et oui, alors ce qui est drôle, c'est que celui-ci, je l'ai déjà trouvé d'occasion sur Rakuten à 7,10 €. Donc, à ce prix-là, préférer les grands formats, c'est quand même mieux. Voilà. Alors, La Lignée, je crois que pour démarrer, alors c'est assez étonnant d'ailleurs comme livre, parce que j'ai l'impression que je vais vous faire parler vous plus que du livre.
Mais en fait, ça va être une rencontre assez intéressante, parce qu'on va parler de Louise, on va parler de l'expérience du monde de l'édition, et puis c'est exactement la même discussion qu'on va avoir là avec moi-même. C'est ça qui m'intéresse dans les deux derniers romans que j'ai écrits, c'est qu'il n'y a plus de filtre entre... ce que je raconte dans une histoire et celle que vous avez devant vous, même si c'est pas du tout ma vie exactement. Et ici, Louise n'est pas Aurélie, mais tout ce qui arrive à Louise existe pour de vrai. Ça ne m'est pas forcément arrivé à moi, mais ça arrive à des amis, filles, garçons, tout ça existe vraiment.
Voilà, mais donc, il n'empêche que le lecteur que j'étais jusqu'à encore hier soir,
on se dit que
c'est pas possible.
C'est moi.
Elle me raconte sa vie, alors que c'est bien un roman. Néanmoins, il y a quand même quelques bases qui sont connues, qui sont sues. Alors moi qui suis souvent dans cette librairie, qui connais bien ce monde depuis longtemps, je me suis dit, mais elle est en train de nous expliquer comment on fait un livre et qu'est-ce qui se passe dans la tête des écrivains aujourd'hui, ceux qui débutent, ceux qui ont des doutes, ceux qui réussissent, et puis ceux qui ont énormément de succès. Parce que, qu'on le veuille ou non, vous êtes une auteure, je mets bien le « e », je sais que vous y attachez une importance, vous êtes quand même une auteure à succès, puisque Mémé dans les orties a dépassé le million d'exemplaires assez rapidement.
Oui, encore une fois, c'est les lecteurs. Moi, j'ai commencé par l'auto-édition, donc c'est les lecteurs qui ont d'abord dit que le texte était bien, et puis après les éditeurs sont venus, et puis ça a été incroyable d'avoir les libraires derrière qui l'ont défendu. Mais c'est vrai que depuis 10 ans, c'est une histoire qui avance. On grandit ensemble. Chaque année, j'essaye de donner le meilleur de ce que je peux donner et de ce que j'ai à dire. Et je suis toujours fébrile, parce que je me dis, mais est-ce qu'ils vont me suivre? Est-ce qu'ils vont aimer cette histoire-là et ces personnages? Et d'un autre côté, je sais que j'essaye de rester la plus authentique et sincère possible, en me disant, je pouvais pas raconter une autre histoire cette année, et je pouvais pas non plus mentir ou me cacher. Donc c'est ça, et j'espère que vous allez me suivre. Et effectivement, cette histoire-là de transmission et d'écriture, pour moi c'était une évidence. On est sur les 10 ans, ça fait 10 ans que j'écris. J'ai pas tout de suite abandonné mon travail, je l'ai gardé pendant 3 ans, mais ça fait bien donc 7 ans aussi que je fais que ça. Et j'avais envie de me dire, depuis le début, c'est la transmission qui est au cœur de tous mes romans. Pour le 10e roman, peut-être que je pourrais transmettre tout ce que j'ai appris, vu, découvert de ce monde d'édition, pour tous ceux qui ont peut-être envie d'écrire un jour, pour tous ceux qui ont une passion et qui s'autorisent pas à sauter le pas, que ce soit dans l'art, dans le sport ou dans autre chose. Et notamment, c'est aussi le premier où je vais plus intimement aller creuser dans ce qui me travaille en tant que mère, épouse, femme. Et ce n'est pas forcément quelque chose que je me serais autorisée à faire il y a 10 ans.
Mais ça prouve qu'un auteur grandit, ou une autrice, je vais avoir du mal avec tout ça.
Tout va bien.
Il y a tellement longtemps que le masculin l'emporte dans la langue française que c'est un petit peu compliqué.
Ouais, on va remettre ça à zéro.
On va essayer de faire un petit reset, exactement. Du coup, je sais même plus quelle était ma question. Oui, de ce que je voulais dire, c'est qu'en 10 ans, on progresse parce que l'écriture, c'est un travail permanent. Donc, une réflexion permanente sur soi, sur ce qui nous entoure. Donc, forcément, ce que vous aviez du mal à dire au début, maintenant, c'est plus simple.
Et puis, en 10 ans, on a lu des livres qu'on n'avait pas lus avant. Oui. On s'est posé des questions qu'on ne s'était jamais posées non plus. Moi, j'ai vraiment, la première fois que j'ai écrit parce que j'avais un rêve de petite fille qui était « je veux écrire mon roman ». Donc j'avais en tête une idée de ce que peut être un roman. Un roman, ça raconte une histoire.
Petite fille, c'était quoi, genre 5-6 ans,
ouais,
c'est ça ?
Oui, 6 ans, ouais. C'était vraiment mon rêve. Et puis après, on oublie son rêve parce qu'on se dit, c'est pas un vrai métier, il n'y a même pas d'école pour l'apprendre. Puis je vais pas dire, alors que ça marche bien à l'école pour moi, je vais dire à mes parents, tiens, je vais faire écrivain. Ils vont me dire, mais qu'est-ce qui nous prouve que ça a marché ? Bah rien. Donc au final, on fait des vraies études, un vrai travail, et c'est après coup que ça nous rattrape. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, allez, j'ai 6 mois dans ma vie maintenant pour réaliser mon rêve de petite fille. Je l'ai fait, je suis fière de moi, je le mets dans un tiroir, j'oublie, je reprends ma vie. Puis d'un coup, on se dit, je l'aime bien cette histoire quand même, peut-être que je la ferai lire à quelqu'un. Et on ose l'auto-édition, et puis la vie nous rattrape. Et puis c'est vraiment, j'ai vécu des choses extraordinaires qui ont dépassé les rêves. C'est-à-dire que j'ai même pas eu le temps d'avoir envie d'avoir un rêve. Que déjà, tout m'a dépassé. Donc c'est ça qui est, sur ce parcours-là, en tous les cas, le mien, qui est assez incroyable. Mais donc voilà.
Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a franchement étonné, parce que, alors, je le répète encore une fois, quand on est plongé dans la lignée, on se plonge en même temps dans votre vie. Donc, en fait, j'ai eu beaucoup de mal, moi, à trouver la frontière entre ce qu'était la réalité et ce qu'était la fiction.
Et même moi, dans 40 ans, je dirais que ça, c'est toute ma vie. Et j'aurais oublié que j'ai romancé la moitié.
Mais il y a quelque chose, alors, qui n'est pas dans le livre, mais que j'ai trouvé je ne sais plus où, c'est la manière dont vous avez appréhendé ce métier d'écrivain. Alors, il y a un truc qui m'a vraiment bluffé, moi, c'est que vous avez regardé sur Internet un tuto pour devenir écrivain. Et vous êtes tombé sur le.
C'est pas pour devenir écrivain, c'est pour écrire un roman.
Pour écrire un roman. Ouais. Mais écrire un roman, c'est un peu devenir écrivain.
Que pour moi, devenir écrivain, c'est ce que je peux être aujourd'hui au bout de plusieurs romans, où maintenant je dis que c'est mon métier et j'en vis et je ne fais que ça. Oui. Alors qu'écrire un roman, on peut garder un métier, on peut être femme au foyer, enfin, on peut tous écrire un roman. Mais devenir écrivain, c'est limite un tuto pour devenir écrivain me ferait peur. Parce que là, d'un seul coup, il faudrait mettre des épaulettes, il faudrait se redresser différemment. Écrire un roman, on peut tous écrire un roman.
Avec une épée à la fin.
Exactement. Donc non, et en fait, le jour où je me suis rappelée de mon rêve, où je voulais absolument écrire un roman, j'étais en Italie, j'avais jamais suivi ni d'études littéraires, rien du tout. Et je me disais, mais comment on fait pour écrire un roman ? Enfin, moi, j'ai déjà lu des romans, mais comment on fait concrètement ? Bêtement, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai tapé dans YouTube atelier d'écriture, j'ai pas tapé comment devenir écrivain, atelier d'écriture, et la première vidéo qui ressortait, c'était celle de Bernard Werber, qui dure 38 minutes, je crois, et il est comme ça, debout, il y a un paperboard derrière, un tableau blanc, et il dit, voilà, je vais vous donner 10 conseils basiques. Il prend son feutre et il dit, 1, l'envie d'écrire. Alors, si c'est pour faire votre thérapie, non. Je mets sur pause et je fais, est-ce que c'est pour faire ma thérapie ? Alors, peut-être, oui. Alors, chaque point, je m'arrêtais vraiment et je réfléchissais. Après, 2, l'intrigue, 3. Et en fait, les 10 conseils qu'il a pu donner, moi, vraiment, c'était comme une main tendue. Ça m'a débloqué. On aurait pu me donner 5 autres conseils. Ça m'aurait permis au moins de me rassurer en me disant, ouais, bah en gros, je vais faire comme je le sens. Mais c'est vrai qu'on parfois, on a besoin de s'appuyer sur quelque chose. Et c'est vrai que ce livre-là, ça peut être une main tendue pour d'autres aujourd'hui. J'ai aussi fait une masterclass qui est enregistrée en vidéo avec 14 modules où je donne tous mes conseils techniques. Parce que voilà, je me dis, à l'époque, j'en aurais eu besoin. Et de ces conseils-là, j'en aurais eu besoin aussi.
Bernard Werber, vous l'avez rencontré depuis ?
Oui, je l'ai rencontré plusieurs fois. Et déjà, il est très fier parce qu'il me dit toujours, moi, quand je fais mes cours comme ça avec des vrais élèves devant moi, j'imagine toujours, enfin, potentiellement qu'un jour, il y en aura un qui réussira. Il me dit, maintenant, je peux même citer un nom. Il me dit, Aurélie Valogne, voilà. Et donc, on s'est rencontrés plusieurs fois. Il voulait même qu'on monte sur scène tous les deux pour faire des cours d'écriture ensemble. Il se trouve que, pour l'instant, ça s'est pas fait. Et chaque année, ça fait 3 ans de suite qu'on se recroise avec le camion qui livre, le livre de poche fait un camion qui parcourt plein de plages de France au mois de juillet. Et on se retrouve en Bretagne à Perros-Guirec. Et donc, à chaque fois, on a la chance de passer une bonne soirée tous les deux. Et l'année dernière, il m'a tiré les cartes de tarot. C'est pas le genre de truc auquel je croyais particulièrement, mais faut dire qu'à ce moment-là, il m'a tiré 3-4 cartes et j'ai fait, c'est toutes les cartes qui me correspondent. Genre, il commence, il dit, bon, alors, la première carte qu'on va retourner, ça explique qui tu es dans le monde, comment tu obtiens ton argent, ton pouvoir, ton truc. Il retourne, il fait, la papesse. Alors, la papesse, là, ça, elle a son pouvoir avec les livres. Je fais, ah bah oui, c'est moi. Après, il retourne notre carte, donc c'était vraiment marrant parce que j'avais pas particulièrement envie d'y croire, mais c'était intéressant. Voilà, donc on rentre dans l'univers de Bernard.
Ça n'est pas un flagorneur, il a pas bricolé le jeu pour vous faire plaisir.
Pas du tout. Puis on sait même pas comment. Enfin, moi, j'attendais rien.
Évidemment. Alors, il y a une autre quelque chose d'important aussi, c'est cette rencontre que vous avez eue à travers un courrier avec Annie Ernaux. Et ça aussi, c'est un peu un déclencheur sur cette envie d'écrire et cette envie de faire vos plus récents livres. Quand vous avez envoyé comme ça, c'était un peu comme une bouteille à la mer. Vous pensiez vraiment qu'elle allait répondre ?
C'était même pas une bouteille à la mer. En fait, pour reprendre depuis le début, déjà, j'ai découvert Annie Ernaux très très tard. Je pense que j'avais, on va dire, 33 ans. Donc, c'est-à-dire que j'avais déjà commencé à écrire Mémé dans les orties. J'étais donc, quelque part déjà romancière. Et puis j'étais en Italie, j'étais à Milan, j'allais tout le temps à l'Institut français. Et là, à l'Institut français, c'est pas les mêmes livres qu'il y avait à l'Institut français que ceux que j'avais quand j'étais petite dans la médiathèque de ma ville natale. C'était des livres plutôt très pointus, des contemporains. Et donc je me suis retrouvée à découvrir Annie Ernaux, La femme gelée notamment. Et en lisant La femme gelée, je me suis dit, waouh, elle raconte sa vie à elle, qui était il y a peut-être 40 ans, mais ça résonne tellement avec ma vie à moi aujourd'hui de je suis maman, j'ai quitté mon travail pour suivre mon mari, je ne suis pas très heureuse en tant que femme au foyer, j'ai des aspirations, j'ai envie d'écrire, mais j'ai pas tellement le droit. Enfin, bref, plein de choses qui ont vraiment beaucoup résonné. Et puis ensuite, j'ai continué à vivre ma vie, on est rentré en France, j'étais pas plus accrochée à Annie Ernaux que quelqu'un d'autre. Et il se trouve qu'il y a un journaliste qui m'a interviewée il y a 2 ans, après Né sous une bonne étoile, et qui, en filigrane du livre, me dit, j'ai l'impression que tu es une transfuge de classe. Je fais, je sais pas ce que c'est que ce mot, moi. Il me dit, si, bah, c'est quelqu'un qui a fait des études et les parents n'en ont pas fait. Je fais, ah bah oui, je suis la première de ma famille à avoir le bac, etc. Et il me dit, bah, j'écris un livre et je voudrais recueillir le témoignage, notamment des enfants comme toi, qui ont réussi. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est pas les enfants qui ont réussi, c'est les parents et comment ils ont vécu l'éloignement de leur enfant, à quel point peut-être ils ont souffert ou pas. Donc ma mère et moi, on participe au livre. Je découvre avec stupeur les réponses de ma mère dans le livre, tout ça, on ne s'était jamais dit. Et vraiment, je suis un peu choquée, traumatisée. Je me dis, en plus, lui, il a un enregistrement avec d'autres trucs qu'elle ne m'a pas dit. Mais peut-être que je peux récupérer l'enregistrement. Et je sais qu'Annie Ernaux a participé notamment à la lecture et a donné des commentaires sur le livre en cours. Alors attention, je vais chanter une petite chanson. Je suis en dédicace. Et ça va, c'est bon. Et
c'est le téléphone ?
Non, c'est pas. Ah non, j'ai pas de téléphone.
Ah oui, d'accord.
Non, il est 3 étages au-dessus. Non, c'est pas moi. Et donc voilà, donc je vais finir un jour par retomber sur comment j'ai écrit la lignée. Vous inquiétez pas, mais je fais des très longues réponses qui passent par des chemins de traverse. Et donc voilà, donc Annie Ernaux, je sais qu'à un moment donné, elle a lu des passages et elle a dit à Adrien Nazelli, qui était la personne le journaliste qui a écrit le livre, elle a dit, oh, la relation entre Aurélie et Corinne est très mignonne. Je me demande d'ailleurs ce que ma mère, moi, aurait dit si on lui avait posé toutes ces questions-là. Et ça plante une petite graine. J'ai envie de la remercier, j'ai envie de lui dire que ces livres ont été vraiment une bouée dans ma vie à un moment donné. Et puis en même temps, je me vois prendre un crayon, faire commencer une lettre, et j'arrive pas à être intéressante. Qu'est-ce que je vais lui dire, moi ? Enfin, vraiment, non. Et un jour, j'ai un déclic et je me dis, mais en fait, elle va bientôt décéder. Enfin, je lui souhaite pas du tout, mais je vais allumer la radio un matin et je vais apprendre qu'elle est plus là. Et ça sera le regret de ma vie. Et moi, j'ai pas de regret. Et deux, je me rends compte que si j'arrive pas à lui envoyer ma lettre, c'est que c'est parce que c'est pas la lettre que je dois lui envoyer, mais c'est mon roman. Mon roman, c'est-à-dire ma propre histoire écrite. Et là, je pourrais reboucler une boucle. Et donc, j'ai écrit L'Envol. Je lui ai envoyé L'Envol l'année dernière, donc en février 2023, avec une petite lettre qui accompagnait en disant, voilà, je ne vous vole pas votre temps, n'attends rien de vous, ni que vous lisiez mon roman L'Envol, ni que vous me répondiez, mais juste pour vous dire merci. Sans vous, je ne me serais jamais autorisée à écrire, encore moins mon histoire. Et puis, je lui raconte d'autres trucs. Et genre, le 8 mars de la même année.
Journée symbolique.
Journée symbolique. J'avais un gros bouquet de fleurs. Je revenais d'une dédicace. Enfin, j'ouvre la boîte aux lettres et je vois une petite enveloppe, mais toute petite, trop mignonne, avec un timbre. C'est un Golden Retriever qui est mon chien, mais elle ne peut pas le savoir. Donc là, je retourne et je remarquais Annie Ernaud, tatata, Sergi. Et toute la soirée, j'ai laissé l'enveloppe sur la table. Je tournais autour, mais je ne voulais pas l'ouvrir parce que je me suis dit, ça contient tout ce que j'ai encore envie de rêver. Enfin, une fois que je l'aurais ouvert, je ne pourrais plus rêver, ouverte. Et puis finalement, je l'ai ouverte, cette enveloppe, et c'était encore plus beau à l'intérieur, parce qu'elle commençait par « Chère Aurélie Valogne », déjà elle connaît mon nom. Bon, après ça s'appelle, voilà. Après elle me dit « Votre lettre m'a infiniment touchée ». Alors c'est vrai qu'Annie Ernaud, on la voit un peu froide parfois, enfin moi c'est une image que j'avais, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit touchée, enfin, et encore moins par des mots un peu simples et naïfs que j'avais pu lui écrire. Et elle me dit « Je sais que ce roman « L'envol » que vous avez écrit là, il vous a fallu beaucoup de courage pour l'entreprendre, courage que vous ne pouviez pas avoir à 20 ans, et j'étais comme vous ». Enfin, à chaque fois, elle se rabaissait, elle venait d'avoir le prix Nobel, elle disait « j'étais comme vous ». Et elle a conclu voilà, par des mots absolument magnifiques, comme quoi, avec la forme que j'avais trouvée, ce double jeu, j'avais rendu une forme de justice à ma mère. Enfin, voilà, des choses qui, moi, m'ont vraiment profondément touchée. Et donc, je me suis vue prendre mon crayon, reprendre une feuille, me mettre à mon bureau et lui écrire pour la remercier de ses remerciements. Donc, je commençais, tatata, puis au bout d'un moment, je fais « Oh, mais d'ailleurs, elle a vécu toute ma vie avant moi. Est-ce qu'elle n'aurait pas des conseils à me donner ?» Alors, nanana. Puis là, je fais « Stop ». En fait, tous les matins, moi, j'ai la chance, je me lève, je regarde ma boîte email et je vois que...
Et il y a plein de mails.
Et il y a 40 personnes qui m'ont écrit dans la nuit parce que bah, ils ont fini un livre. Et en fait, quand je lis tous les messages, puis je réponds seulement à peu près à 10 parce que c'est le maximum que j'arrive à faire, ça me prend la matinée. Et dans la journée, les 10 m'ont de nouveau répondu en disant « Incroyable, elle m'a répondu !» En fait, j'avais un manuscrit. Et puis là, en fait, la personne me répond et me réécrit. Et c'est exactement ce que je m'apprête à faire avec Annie Ernaud. Et je me dis « Mais elle n'a pas 40 ans, elle en a plus que 80. Je ne peux pas lui voler son temps. Moi, ce que j'attends d'elle, ce n'est pas qu'elle me réponde, c'est qu'elle continue d'écrire. » Donc, en fait, toutes les réponses que j'attends d'elle, mais je les connais déjà parce que je connais sa vie par cœur. J'ai lu tous ses livres, j'écoute des podcasts tout le temps où elle parle et raconte à des interviews. Et je me suis dit, ben en fait, je vais continuer à prendre ma feuille, je termine la lettre que je voudrais lui envoyer, je laisse reposer, et demain, je me remets à mon bureau, et demain, c'est elle qui répond. Et donc, je me mets dans sa peau, et donc le roman a vraiment commencé à mon bureau,
à
la main.
Et c'est comme ça que ça démarre.
Et c'est comme ça que ça démarre. Voilà. Donc, vraiment, tous les conseils que j'aimerais recevoir, il se trouve que là, je dis que c'est Annie Ernaud, mais que c'est... Elle s'appelle Madeleine et c'est pas Annie Ernaud. Et Madeleine est plus grande que Annie Ernaud. Parce qu'après, j'ai aussi écrit à Amélie Nothomb, à qui je n'ai pas envoyé de lettre parce que je savais très bien qu'elle me répondrait et que je voulais pas la mêler à tout ça. Et le conseil qu'elle m'a répondu pour de faux, enfin que je me suis inventé, le premier, c'était « Prenez soin de vos lecteurs ». Et je me dis, bah oui, elle, évidemment, elle me dirait ça. Ensuite, j'ai écrit à Emily Dickinson, bon, qui est morte et qui ne pourrait pas me répondre, et qui m'a dit, mais arrêtez de me harceler. Je me suis recluse de mon vivant. Occupez-vous des écrivains du futur. Et là, je me dis, pas bête. Donc, ça reboucle avec la fin du roman. Enfin, bref. Donc, c'est là où vraiment, je sais que j'ai trop de créativité et qu'il fallait que j'en fasse quelque chose, qui soit au moins utile. Et le roman est né comme ça. Et au bout d'un moment, j'avais un peu mal à la main et je suis passée à l'ordinateur et j'ai repris et ça a continué. Mais c'est vrai qu'au début, c'est vraiment à la main et au bureau que ça a commencé.
Alors, c'est ce qu'on appelle un roman épistolaire. Et moi, je me suis dit, on est en 2024, les gens n'écrivent plus de lettres, puisque tout a été finalement numérisé aujourd'hui dans nos relations humaines. Et je me suis dit, est-ce que c'est finalement quelque chose qui pourrait paraître démodé ou pas ? Et je me suis interrogé sur la relation que vous aviez encore avec le papier. Alors, on ne sait pas d'ailleurs si c'est une relation avec des... Là, vous parlez du timbre avec votre chien sur l'enveloppe, mais dans le bouquin, vous ne dites pas. Quel genre de relation ? Est-ce que c'est du papier ou même de l'informatique ? On ne sait pas.
Ah si, c'est du papier. C'est du papier. Ouais, c'est très... Elle choisit le papier, elle choisit l'encre, elle choisit le timbre. Un petit passage à un moment donné, si. Mais non, mais en fait, moi, Annie Ernaud, j'avais la chance d'avoir son adresse postale et son adresse email. Jamais de la vie, je veux lui écrire un email. Moi, ce qui pouvait m'intéresser, si elle avait voulu prendre le temps de me répondre, et ce qu'elle a fait, c'était d'avoir un bout d'elle, c'est horrible ce que je dis, mais avec son écriture, presque pas très lisible, potentiellement, si elle avait fait une petite tache d'encre, c'était bien, elle l'a pas fait. Mais enfin, vraiment, c'est ce que j'ai de plus précieux chez moi. Hein, c'est grand comme ça, c'est tout petit, mais c'est concret. Et il y a tellement, j'ai tellement d'admiration, j'ai tellement de respect que jamais de la vie j'envoie un email. Enfin, je peux pas faire ça, pas avec elle. Et donc, ce roman-là, il devait être à la main. Et c'est aussi pour ça que j'ouvre le roman en disant que font les écrivains quand ils n'écrivent pas ? Ils s'écrivent. Et là, je me dis, je justifie une relation épistolaire en 2024. Moi, aujourd'hui, en 2024 ou 2023, j'ai écrit physiquement à Annie Ernaux. Et je ne m'attendais pas, elle aurait pu le faire, hein, m'écrire avec un email, mais il aurait fallu qu'elle le cherche et qu'elle le trouve. Et que moi,
il est dans tous vos bouquins et dans votre site
internet. Je l'ai enlevé, il y a 3-4 ans, je l'ai enlevé.
Et on le retrouve sur votre site internet.
Oui, oui, on le retrouve sur le site internet, on le retrouve sur certains poches.
Par contre, vous n'êtes pas dans l'annuaire, j'ai regardé.
Oh non, non. Mais en fait, moi, je suis quand même phobique. Et ce roman-là, je le raconte un peu en fond, en large, en travers, qui je suis. Mais moi, tout ce qui est un peu électronique, ça me stresse. Je pense que j'ai fait deux burn-out aussi au travail, où j'arrivais au bureau le matin, il y avait 200 emails, je vais pas m'en sortir. Et donc même le matin, quand j'ouvre ma boîte mail, ça me crée une vraie angoisse parce que je sais que je vais en décevoir beaucoup. Et c'est pour ça que je veux plus la mettre, parce que mettre une adresse email, c'est dire écrivez-moi, je vous répondrai. En fait, je sais qu'il y en a à qui j'arrive pas à répondre, et le tri, il est absolument arbitraire. Parfois c'est juste les premiers, parfois il n'y a aucune logique. Et donc je me suis dit, je les lis tous, ça c'est sûr. Mais par contre, ben, je ne peux pas l'afficher et je veux pas inciter les gens à être déçus. Donc je me suis arrêtée de l'annonce. Et les fans de la première heure ont mon adresse email qui n'a pas changé. Ma mère m'écrit dessus, c'est toujours la même. Donc voilà. Mais j'ai arrêté de le mettre parce que ça me mettait mal à l'aise de une invitation à m'écrire. Et derrière, j'étais pas capable, dans ma journée, de faire rentrer tout le monde.
Alors je reviens à ma question parce qu'on s'est un petit peu écarté. En 2024, un roman épistolaire, ça a encore du sens ? On pourrait poser la question à votre éditeur aussi.
Oh, alors mon éditeur, il m'a dit non.
Il a dit non.
Ah oui, il m'a dit mais qui s'écrit ? Alors c'est pas Laurent. Oui, vas-y Laurent. Oui. Alors madame, vous êtes devant moi.
Oui, mais pourquoi pas ?
Oui, pourquoi pas ? Et moi je
ouais.
En fait, moi, je trouve qu'on ne se dit pas les mêmes choses quand on a le temps. Quand on... Vraiment, moi, je sens que même en termes d'implication avec le cœur, moi, je suis gauchère. Donc, quand j'écris à la main, c'est relié directement au cerveau, au cœur. Enfin, et je sens vraiment que chaque phrase, elle porte... même la longueur de mes phrases à la main est beaucoup plus longue que ce que j'écris à l'ordinateur. Et donc, moi, pour moi, c'était la juste forme pour ce roman entre deux écrivaines, ce n'était pas des emails. Et pourtant, j'avais lu Cher connard de Virginie Despentes. C'est trop rapide, c'est trop... Enfin, c'était la bonne forme pour son histoire à elle, mais pour mon histoire à moi, non, non, surtout pas. Moi, j'ai vraiment cette nostalgie, moi je n'aime pas les ordi, j'aime pas ce qui va vite, moi j'aime ce qui est lent. Dans tous mes livres depuis 10 ans, on verra pas Internet, on verra pas la télé, on verra pas... Enfin, si, Belphégor, je l'avais mis quand même, mais j'aime bien juste montrer un temps qui pouvait être le même. En fait, j'ai la phrase dans le roman, j'aimerais que mes histoires puissent être lues dans 20 ans, mais j'adorerais aussi, j'aurais aimé qu'on puisse les lire il y a 20 ans. Et même maintenant, on va dire 30 ans, parce que même à l'époque où il n'y avait pas Internet. Moi, ça va trop vite. On est censé adorer son époque. Bah, j'ai préféré avant quand même, quand j'étais petite, et on écrivait des cartes, et on était à la main, et moi, mes crayons, ils ont de la vraie encre que je recharge, et je m'en fous plein les doigts. Ça me rappelle quand j'avais un buvard. Moi, j'ai vraiment cette nostalgie-là d'un temps où, ouais, juste, on est entre nous à deux et rien vient nous polluer.
Ça prouve que les histoires marchent aussi, finalement. Parce que si on peut les transposer d'un temps à un autre, l'homme n'évolue pas aussi vite que la technologie.
Oui, moi, pour moi, je cherche toujours à être intemporel, me dire ce qui nous touchait il y a 100 ans, c'est censé être la même chose. Ce qui fait accélérer le cœur, battre un peu plus vite, c'est certaines émotions et c'est pas d'autres. Donc c'est aussi ce que j'essaye de garder.
Alors, 350 et quelques pages, et c'est selon des allers-retours incessants entre Madeleine, la plus âgée, donc qui n'est donc pas Annie Ernaux, on est bien d'accord.
Elle est plus grande qu'Annie Ernaux, enfin voilà. Plus grande dans le sens, c'est tout le monde.
Et puis Louise, qui vous ressemble beaucoup.
Mais encore une fois, c'est toutes les jeunes écrivaines, c'est-à-dire qu'elle lui arrive plein de choses à Louise, notamment une éditrice pas sympa, je ne l'ai pas eue cette éditrice. Par contre, elle existe pour de vrai, je la connais, et j'ai récupéré deux amis qui sont venus en larmes en disant mais je me suis fait fouetter.
C'est quand vous écrivez, quand Louise écrit son deuxième roman, il y a des allers-retours avec l'éditeur, oui. Et elle reçoit son manuscrit plein de traces rouges avec non, pas ça, oui. Redondance, etc. Un peu le trauma qu'on avait quand on était enfant et qu'on récupérait avec le stylo rouge du prof. Quoi.
Sachant que évidemment moi quand j'ai édité Mémé dans les orties, donc je me suis auto-édité, quand je l'ai donné à mon premier éditeur, je lui ai dit, je veux qu'on ait un travail d'édition dessus, hein. Je veux qu'on regarde phrase à phrase, moi je veux apprendre à écrire et à écrire mieux. Premier roman, deuxième roman, troisième roman, enfin, j'ai toujours eu envie de m'améliorer et dans la fluidité, dans le style. Donc j'ai toujours été ouverte aux commentaires de tous les éditeurs. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, quand un éditeur essaye de nous faire écrire une histoire qui n'est pas la nôtre, où on peut... Moi, j'ai pu entendre dans ma vie, tu veux pas nous mettre un peu plus de sourire, un peu plus d'amour, un peu plus... Non. La Ritournelle, c'est une famille qui s'en envoie plein la figure. Il n'y aura pas plus de sourire, plus de... C'est un peu le Père Noël est une ordure. Donc, et je peux comprendre que parfois un éditeur a une image où se dit, tiens, public, peut-être, sinon il va être déçu. Oui, mais en fait, là, j'ai choisi ce métier pour être libre.
Donc, oui, mais dans ce cas-là, l'éditeur fait du marketing et vous, vous écrivez, vous êtes
exactement,
artiste.
En
fait.
Exactement.
Donc il faut une totale
mais
liberté.
Il faut se défaire des attentes et ouais. aller là où on sait qu'on est juste.
Alors justement, Mémé dans les orties, personne ne l'a relu puisque c'est une auto-édition. Enfin bon, si, vous avez peut-être fait lire à votre entourage. Et d'ailleurs, il y a un passage sur ne surtout pas faire lire à la famille.
Jamais.
Jamais. Mais donc, il y a quand même bien des gens qui ont lu, qui ont... Parce que même quand on écrit très bien, on fait toujours des fautes. Donc il faut les corriger, etc. Mais donc du coup, cette première mouture auto-édition, elle a un peu évolué après quand elle est passée chez un vrai éditeur.
C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que moi je me suis auto-édité. Franchement, en dictée, j'avais 20 sur 20, je faisais aucune faute. Bah, je peux vous dire, sur la plateforme d'auto-édition, j'ai eu quelques 1 étoile sur 5 de gens qui me disaient « il y a plein de coquilles ». Parce qu'effectivement, sur 280 pages, il y a des petites choses qu'on laisse passer et qu'on n'a pas vues, même si on l'a relu 30 000 fois. Ma meilleure amie, mon mari, avait lu aussi, il ne les avait pas vues. Donc, heureusement, on peut modifier le fichier autant de fois qu'on veut, mais les avis 1 étoile sont restés. Donc, heureusement, j'avais plus de 5 étoiles à ce moment-là. Mais ça, au début, c'est ce qui peut justifier parfois que quelqu'un qui s'auto-édite n'arrive jamais à rattraper les mauvais commentaires juste pour des coquilles. Et c'est tellement triste alors que l'histoire est peut-être géniale. Donc voilà, conseil, surtout fait de relire par un correcteur professionnel, ce que je n'avais pas fait.
Est-ce qu'il n'empêche pas de vendre le bouquin à plus d'un million d'exemplaires quand même ?
Oui, oui, mais ça c'est autre chose. Et après, quand j'arrive donc chez Michel Lafond, à ce moment-là, moi je leur demande de travailler sur le texte parce que moi j'ai aucune confiance dans ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je sais que l'histoire est bien, mais ça se trouve, on peut améliorer les phrases, que ce soit plus fluide ou autre. Et là, elle me dit franchement. Oui, tu dis en 3 phrases qu'on pourrait dire en 2, mais en même temps, chacun, c'est son souffle, c'est ma façon d'écrire, et je me vois bien que je continue à refaire des phrases toujours très courtes. J'aime pas trop les subordonner. Et donc voilà, donc on a retouché à la marge, mais vraiment, c'était à la marge, histoire de moi aussi, où je me dis, si on partage les droits, autant qu'ils travaillent un peu, quoi. Qu'ils m'aident un peu.
Alors, Louise, vous avez évoqué quelque chose qui, moi, m'a frappé, c'est le doute permanent. Même après 10 bouquins, on doute toujours.
Oui, mais il faut. Et vraiment, là, j'ai cité dans les remerciements un lecteur que j'ai rencontré l'année dernière. Bon, je le rencontre chaque année, mais il m'a fait une phrase magnifique l'année dernière à Amiens. Parce qu'on parlait justement du doute qui m'accompagne. Vraiment, moi, j'ai la solitude et le doute, c'est les deux meilleurs amis de ma vie. Hein. Et il me disait, mais surtout, continuez toujours de douter. Parce que quand on doute, on ne sait pas de quoi on est capable et on dépasse ses propres limites. Et en fait, effectivement, même si je repense juste à L'Envol. Après, on aime ou on n'aime pas le roman. Hein. Mais j'avais pas voulu lire La place d'Annie Ernaux. Parce que je m'étais dit, elle raconte son histoire avec son père et leur relation un peu de transclasse. Et moi, ce que j'essaie de faire avec ma mère, c'est proche. Si je lis Annie Ernaux, La place, qui a quand même eu le Renaudot, etc., ça sera moins bien ce que je vais faire. Je vais comparer, je ne vais pas y arriver. Donc je me suis interdit de le lire et je me suis imaginé, parce que j'avais quand même lu le tout début, les 50 premières lignes, et je me suis dit, oh là là, le niveau est là. Et donc dans ma tête, je me suis mis une pression pour écrire un livre qui soit pas aussi nul que possible et vraiment être un peu à la hauteur du sujet et de ma mère. Et donc j'ai écrit L'Envol. Ensuite, j'avais été interviewée par des journalistes de Lire Magazine et puis ils me disent, j'avais lu que vous gardiez la place pour plus tard. Bah, maintenant que L'Envol est écrit, quand est-ce que vous allez le lire? Et là, je fais, bah oui, bonne question ça. Je sais pas. Et donc il était parti que hop, je sors le roman, je le lis. J'ai trouvé ça très bien, mais je m'étais fait une montagne de la place. Et donc je voulais être à la hauteur de cette montagne. Donc quand on ne sait pas quelles sont nos propres limites, parfois on les repousse et on les repousse et on les repousse. Donc le doute, moi, m'aide à me dire, je ne sais pas ce qui vous plaît, je ne sais pas ce que je suis capable de faire, mais je sais que je vais aller le plus loin possible, je ne veux pas faire deux fois la même chose, et je vais essayer d'ouvrir le cercle où... Voilà, de repousser les murs de tout ce que je pensais impossible. Et souvent, moi, je vais vers ma peur. Si j'ai peur d'un truc, Bah, c'est que je vais apprendre, c'est que je vais grandir. Et donc, dès qu'un sujet me fait peur, j'y vais. Ce qui n'est pas rassurant. Mais donc, le doute revient forcément. Et maintenant, je sais que je n'ai plus ce syndrome de l'imposteur que j'ai vraiment porté très longtemps, notamment parce que j'ai commencé par la petite porte de l'auto-édition. J'ai pas eu un tapis rouge avec les éditeurs qui... Enfin, bref, j'ai senti longtemps que... Ben, j'étais là un peu parce que grâce à vous, mais que personne dans le milieu littéraire m'avait un peu adoubé. Et puis, au fur et à mesure, ça va mieux. Depuis l'envol, depuis que j'ai pris le jeu pour la première fois, depuis que des profs de la Sorbonne ont lu tous mes livres jusqu'à l'envol l'année dernière, et ils m'ont dit que c'est beau d'assister à la naissance d'une écrivaine. Et pour eux, la naissance, c'était aussi tout le parcours, mais aussi le dernier roman qui était l'envol. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et je vais rechanter une petite chanson. S'il y en a qui ont un doute sur le vibreur ou autre, vérifiez. Tout va bien. Et là encore cette année, j'ai eu un super papier dans Lire Magazine pour la lignée. Et je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Ils étaient là à dire l'écrivaine Aurélie Valogne. Je fais waouh. Son œuvre.
Ça claque.
Son
œuvre.
Mais oui, ça claque. Et puis après, ils disent qu'ils ont beaucoup aimé. Enfin, tout ça, on ne l'espère pas. Pas ou plus, et on s'en fiche, et on se dit qu'on n'écrit pas pour ces raisons-là. Mais donc, depuis deux romans, je me suis dit, ça y est, je suis à ma bonne place, et j'ai pu à rougir de quoi que ce soit. Mais c'était un long chemin.
Oui, mais en même temps, c'est sans arrêt, j'imagine, la bascule entre les lecteurs, parce que c'est bien eux qui vous apprécient, qui rentrent dans vos histoires, et puis, vous avez employé le mot « adoubé ». Parce que ça veut dire qu'on est toujours, comme dans la création, on a envie d'avoir la reconnaissance des pairs.
Mais voilà. On la veut une fois.
Oui. Ah, moi, c'est bon. Vous l'avez eu à quel moment, ça?
Là, avec l'envol.
Avec l'envol.
Ouais, avec l'envol. Donc moi, c'est bon. Enfin, maintenant, si j'avais besoin de montrer que je savais écrire avec un jeu ou je sais pas quoi, c'est fait. Donc maintenant, je veux juste, quand je suis dans mon bureau et que je suis enfermée, je me dis, je veux pas décevoir les lecteurs. Moi, je sais que je suis allée au bout de moi, j'ai été sur le sujet et j'ai écrit le roman que je voulais écrire. Après, le reste... Voilà, mais les lecteurs, enfin, vraiment. Mais de se dire un jour, enfin, parce que finalement, je me retrouve dans des salons avec d'autres auteurs, et à une époque, je me sentais presque comme ça, toute petite. Maintenant, je me dis, bon, allez, hop, je vais me retasser un peu plus, et j'ai le droit d'être là, j'ai pas à rougir. Mais à une époque, j'étais pas sûre de ça.
Le fait d'avoir vendu plusieurs millions de bouquins, ça...
C'est pas à mon avantage pour le milieu littéraire.
Oui, mais pourquoi?
Pour un tout petit milieu parisien, non. Moi, on en vend, mieux c'est. C'est que c'est littéraire, c'est bien
écrit. Oui, parce que ça veut dire que quoi, c'est du bas de gamme, c'est du populaire, etc.
Vraiment, en France, mais ça marche que en France, et c'est ça qui est parfois effrayant, c'est qu'on peut se dire, si c'est trop populaire, c'est que forcément, c'est mal écrit. Et moi, heureusement que j'ai vos messages. Heureusement qu'on est là et qu'on échange. Parce que le matin, il y a des gens vraiment, et ça me touche beaucoup, qui m'écrivent et qui me disent « Oh là là, votre roman, oh que c'était beau, oh que j'ai pleuré. Hein. » Et puis, qu'est-ce que c'est bien écrit. Hein. Parce qu'il y en a d'autres. Et là, je suis là à dire « Ouf, merci. » Parce que ça aussi, ça me touche beaucoup. Parce que je sais que j'essaye de raconter une histoire. Mais que derrière, on souligne le fait que je me suis pris la tête et la tête à relire 50 fois à voix haute et mes phrases. Et je virais tous les mots qui n'étaient pas à la bonne place. Et personne ne le voit, et on a tendance à dire c'est un style simple, c'est accessible. Ouais, c'est du boulot quand même. Même si le premier jet n'est pas tellement éloigné, ça dépend sur celui-là quand même, c'est évident que parfois ça peut être suspect. Si ça se vend, c'est que ça parle à tout le monde, du coup c'est que ça ne doit pas être très intelligent. Eh bien si, franchement on peut se le dire, ça parle. Et peut-être qu'on a trois niveaux de lecture, et celui-ci particulièrement. Ma mère, ce n'est pas la plus grande des lectrices, doit lire 2-3 livres par an. Mais dans celui-ci, c'est la première fois où je me suis dit, elle n'aura pas toutes les références. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas qui est Virginia Woolf, elle ne sait pas qui est Annie Ernaux, et ce n'est pas grave. Et par contre, elle m'a dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai aimé. Et à la fin, j'ai pleuré. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Donc chacun prendra ce qu'il a envie de prendre, la relation, l'amitié entre deux femmes de deux générations, les conseils pour ceux qui veulent aller peut-être un jour écrire, et puis peut-être les références littéraires pour ceux qui sont curieux de se dire, mais c'est quoi ça, c'est Virginia Woolf, elle a fait quoi? Ou qui est Emily Dickinson? Et c'est vrai que c'est le premier roman où je parle de mes vraies propres lectures. D'habitude, je me dévoile pas tant que ça. Là, j'avais envie de dire, il y a des sœurs qui habitent dans mon bureau avec moi et qui me portent et qui me disent, nous, on est passé avant, on a fait notre travail à toi. Et personne me l'a dit, personne me le dira, mais moi, je me le dis toute seule. Du coup, je me dis, allez, maintenant, c'est à vous. Alain, chacun son passage de relais.
Pourquoi vous dites des sœurs? Les hommes n'ont plus de place.
Il y a Kafka, si, et Kafka est dedans aussi.
Ah oui,
si, Kafka est là, Jack London aussi. Non, les hommes aussi, mais en fait, moi, ce qui me fait du bien, c'est de lire des artistes qui doutent, qui ont une sensibilité, qui sont pas dans le jugement ou dans j'ai raison. Et par exemple, j'ai aussi lu Le journal d'un génie de Dali. Lui ne doute pas du tout. Du coup, je me suis moins retrouvée. Donc, et après aussi, quand on lit le journal de Virginia Woolf, par exemple, elle a des migraines terribles tous les mois, mal au ventre. C'est des choses que je peux vivre aussi et que d'autres auteurs, hommes, ne vivent pas. Et je me dis, moi, j'ai la chance de potentiellement d'avoir des médicaments qui me permettent de pas souffrir et de pouvoir continuer à travailler et à écrire. Mais c'est aussi ça que je cherche. C'est des récits de femmes qui, le mercredi, arrêtent tout parce qu'elles ont des enfants à amener au sport. Le samedi, dimanche, arrêtent tout parce qu'il faut aller faire le marché. Qui arrêtent tout à 16h parce qu'il faut aller chercher à l'école. Et ça, on les retrouve pas sur les hommes. Et même, on parlait de Bernard Werber, il écrit tous les jours de sa vie, de 8h à midi. Il n'emmène pas les enfants à l'école, il ne s'arrête pas pour les vacances scolaires. Moi, je planifie mes dédicaces en fonction des zones A, B, C. Enfin, qui fait ça? Des gens modernes.
D'autres femmes, sans doute.
Et en fait, je pense aussi d'autres hommes auteurs qui vont commencer ou qui écrivent aujourd'hui et qui sont plus jeunes. Mais j'avais envie aussi de raconter ça, de raconter l'envers du décor, de comment on arrive à se créer un monde imaginaire tout en étant très connecté à la vie réelle.
Oui, mais là, donc ça nous renvoie tout le temps à cette histoire de solitude, parce que finalement, on se dit, mais il y a des écrivains, ils sont tout le temps dans leur bureau, ils sont dans leur bulle, après ils sont avec leur lecteur, mais il n'y a pas de place pour la famille. Et vous décrivez très bien justement ce côté cannibalesque de l'écriture qui va avoir une influence réelle sur votre vie privée.
Sur la vie privée de Louise.
Oui, pardon.
Ouais,
oui.
Parce que je suis encore mariée. on fait un petit update l'année prochaine. Mais il a interdiction de le lire d'ailleurs, parce que mon mari. Oui,
c'est troublant, hein,
qu'il va se vexer sur chaque page. Donc voilà. On n'a pas envie qu'il se vexe.
Mais tout ça pour vous dire que moi j'ai toujours eu du mal à me dire, mais le personnage que je suis en train de me représenter, mais est-ce que c'est la vraie ou son héroïne? Voilà,
c'est ça. Et tout est vrai, mais c'est pas forcément moi.
Oui, tout
donc,
à fait.
Et ça existe pour de vrai.
Vous êtes
si c'est pas
avec
moi.
Votre mari Olivier d'ailleurs.
Exactement. Bon, c'est pour ça tout à l'heure on avait une collection d'Olivier. Mais oui, donc pour revenir à ce point
sur la
solitude, oui, c'est la partie, en fait, même je me rends compte que j'ai besoin vraiment de cette solitude. Et quand on a deux enfants qui sont plus tellement en bas âge, mais qui sont quand même là, puis c'est deux garçons avec beaucoup d'énergie, la solitude, je la guette à chaque coin de rue. Et mon mari, l'autre jour, m'a fait une phrase qui est... C'était pas forcément une dispute parce qu'il y avait des invités, mais il m'a dit, mais de toute façon, toi... faut pas filmer madame à ce moment-là. Non, je rigole. Il m'a dit, mais de toute façon, toi, tu n'aimes qu'une chose, c'est être toute seule. Ben, en fait, oui, entre 8h30 et 16h, la vérité, c'est que j'adore être dans mon bureau parce que, un, je suis avec tous mes frères et sœurs artistes, je me fais des nœuds au cerveau, je trouve des solutions. Enfin, vraiment, je me sens mais vivante à 1000%. Ça, c'est surtout la partie début du roman. Les 2-3 dernières semaines, au moment où je rends le manuscrit final, j'ai la langue qui pend et j'ai envie de poignarder tout le monde. Donc vraiment, là, cette partie-là est plus compliquée. Mais la partie est géniale sur un nuage où on se sent créateur fou dans sa tête, ça, c'est super. Mais ça ne peut exister que quand on a des plages longues. Moi, mon mari cuisine et quand à midi, il dit « Ah, table !» J'étais pile bien dans mon petit nuage avec tous mes personnages et là, il faut que je ressorte. Et en même temps, si je dis « Bah non, les œufs qui sont censés être parfaits vont être moins parfaits dans 2 heures », ok, je descends. Mais donc, c'est compliqué à gérer. Et cette recherche de solitude, moi, c'est la solitude choisie. Je serais seule, sans enfant à 16 heures. Oh, ça serait un peu plus... Aujourd'hui, ça serait dur. Maintenant, il faut trouver le bon équilibre. Mais avoir juste ces personnages... Il y a des jours où on a le temps de lire et on n'a pas envie, et c'est horrible parce qu'on se dit « c'est nul, qu'est-ce que c'est ? Je m'ennuie ». Là, pareil, il faut trouver le bon équilibre. Donc voler du temps, c'est un peu le thème du roman, pour soi, mais aussi le voler à sa famille. Et en même temps, lundi, c'était Pâques, et ma belle-mère me demande et me dit « mais franchement, tous ces déplacements-là, bah, si tu le faisais pas, ce serait quoi la différence ?» Et là, je me dis... Elle n'a pas compris, en fait. Pendant 6 mois, je m'enferme, et c'est... Moi, je suis quelqu'un de social, donc maintenant, je sais que quand j'écris d'abord pour moi, c'est vrai, mais j'écris en me disant « je vais faire ce geste ». je vais vous dire, allez, j'ai qu'une hâte, c'est de vous rencontrer. C'est ça qui me nourrit. J'ai pas envie de vous décevoir. Enfin, c'est vraiment, c'est mon moteur. C'est mon utilité sociale. C'est un roman par an pour parler d'une injustice où potentiellement je montre comment on pourrait faire un tout petit peu différemment. Si on m'interdit d'aller vous rencontrer, mais je suis malheureuse. Moi, je peux pas enchaîner deux histoires si j'ai pas vu dans vos yeux continuer. Enfin, moi, je suis incapable. Donc, en fait, j'ai besoin de ça pour me dire, c'est bon, continue, fais-toi confiance. Le doute qui est toujours un peu là. Et donc, voilà, ma belle-mère n'a pas compris que c'était mon choix, que c'est moi qui... Je sais qu'au bout de 20 rencontres, je commence à m'entendre, me répéter, me dire, je ne l'ai pas déjà raconté cette histoire de la lettre d'Anne Yarno, là. Et donc je me dis, ça suffit, tu as coupé le cordon avec ton roman, tu as vu dans les yeux des lecteurs que ça va, tu peux encore te faire un peu confiance, je peux retourner au travail. Et j'attends que ça, d'avoir un début d'idée, et souvent les idées, elles arrivent dans les discussions qu'on a. Et ça, je trouve ça dingue, parce que là, vraiment, je pars de chez moi, je ne sais pas à quoi ressemblera le prochain roman. Et je rentre chez moi avec le train, je fais « Ah, je crois que je tiens un truc ». Et c'est tout ce qu'on s'est dit. Et à la fin, bah, on verra ce que je vous tendrai, mais l'année prochaine. Donc voilà.
Vous l'avez entendu souvent, mais c'est pas le rôle d'une femme d'écrire, ou tu ferais mieux de rester dans ta famille et t'occuper de tes deux garçons plutôt que d'écrire et de t'enfermer. Vous l'avez entendu, ça ?
Alors, on ne dira pas la phrase... Enfin, j'ai pas entendu la phrase « C'est pas le rôle d'une femme d'écrire oui. », mais toutes les petites phrases, celles que ma belle-mère, vraiment... Elle me l'a dit de manière hyper gentille. J'avais la crève lundi, j'étais fatiguée, j'avais qu'une envie, après une bonne tournée que j'avais déjà un peu faite, d'être chez moi sous ma couette avec un livre. Bon, bah on avait la belle famille, c'était mon anniversaire. Il fallait un peu que je sois debout et j'avais des cernes comme ça. Et donc je comprends qu'elle s'inquiétait pour moi et que ma place est censée être avec mon mari et mes enfants. Non, je suis pas d'accord. Donc en fait, c'est toujours plein de petites phrases gentilles au départ, mais qui viennent me blesser parce que j'ai pas envie qu'on me dise que ma place aujourd'hui, elle est pas là. Ma place, elle est là. Parce que, je l'ai choisie, je l'ai voulu, j'en ai besoin, et que je serais malheureuse, en fait. Et vraiment, c'est pareil dans le livre. À un moment donné, elle s'engueule avec son mari qui lui dit « Arrête d'écrire, c'est pour faire chier tout le monde et détruire ta famille. » Alors, c'est filmé ou pas ? Disons que c'est une phrase entendue.
C'est une phrase entendue, ça.
Oui, ouais. C'est une phrase entendue. Et du coup, j'ai essayé d'arrêter d'écrire. Mais je peux pas. Mais en fait, moi, je prends un livre, j'ai un stylo, enfin, rarement un stylo, mais un crayon de papier. Et je note et je fais, oh, mais ça, génial, ça plus ça égale idée géniale de... Et en fait, non, je peux plus lire sans avoir envie d'écrire, sans un projet. Donc en fait, si on demande de choisir entre l'écriture et n'importe qui va perdre. Parce que l'écriture, ça fait partie de moi, c'est ce qui me rend heureuse. Donc j'ai essayé, j'ai testé cette idée, et donc à la poubelle, je vais continuer à écrire. Mais c'est, en fait, qui d'autre entend ce genre de phrase ? Ben, je pense qu'un Bernard Werber dirait « j'ai divorcé 3 fois ». Donc en fait, c'est pas spécifiquement féminin. Mais en plus, une femme aura d'autres trucs. Mmh. Quand j'arrive sur les salons, à Brive, ça m'est arrivé, première question d'un journaliste qui m'attrape au vol avant que j'arrive à ma table de dédicace, c'est « Ah là là, vous êtes très attendue, vous le savez, jeune maman, machin. Mais alors, qui garde les enfants ?»« Ah, mais ils ont un père !» C'est pas un babysitter, c'est un père. Et je me dis, il y a Marc Lévy à côté, je suis sûre qu'on lui a pas posé la question. Et c'est rien. Mais quand là, c'est 10 ans. Donc en 10 ans, j'en ai entendu des petites phrases comme ça qui, toute seule, je me dis, je suis parano, je me vexe pour un rien. Non, en fait, on va juste vérifier entre collègues hommes et femmes qui les entend, qui les entend pas. Et je me suis dit, on va juste voir qu'en 45 ans, entre une génération comme celle de Madeleine et une génération comme celle de Louise, il y a des choses qui avancent, tant mieux, et il y a des choses qui n'avancent pas assez vite.
Voilà. Et pourtant, Madeleine, finalement, elle a trouvé la solution, c'est qu'elle vit seule.
Oui, et moi, c'est un fantasme.
Elle est comme par hasard en Bretagne.
Ouais, mais c'est-à-dire que la fugue, mais depuis que j'ai 8-10 ans, j'ai envie de fuguer. Ouais. Moi, j'étais chez ma mère, j'avais préparé mon sac à dos, et j'étais, m'en fous, je pars chez ma grand-mère en vélo, je connais le chemin par l'autoroute. Puis un jour, je dis, oh, ça fait long quand même. Ouf, et puis c'était de nuit, puis j'avais pas de lumière sur mon vélo. Donc le fantasme de la fugue, je l'ai depuis ma naissance presque, et je l'ai jamais fait. Donc évidemment qu'au moins les livres servent à ça, de vivre une vie qu'on n'a pas. Et Madeleine, j'avais envie qu'elle fasse un truc qui peut-être traverse la tête de certaines femmes, un jour, de prendre la porte et se barrer. Mais vraiment, en disant, on peut plus là, quitte à revenir 2 jours après, ou quitte à pas revenir. Mais Madeleine, elle le fait. Et là, on se dit, waouh, quelle mère horrible! Mais qu'est-ce que ça donne une héroïne, donc ça reste de la littérature, qui fait un truc qui a traversé la tête un jour, peut-être, d'une femme ou de plusieurs, juste de voir ce que ça donne. Et est-ce qu'elle est alignée avec celle qu'elle l'est ou pas. Est-ce qu'elle a des remords, des regrets? Voilà, faut voir le livre jusqu'au bout. Je suis pas sûre de signer tout de suite moi pour la vie de Madeleine, parce que voilà, je vous laisse lire. Mais est-ce qu'il faut pas des modèles de femmes ou hommes assez libres aujourd'hui pour qu'on puisse avoir l'éventail des possibilités et de se dire mais on n'est pas plus cruel en faisant ça ou ça. Si on est malheureux, est-ce que ça vaut le coup de rester enfermé et se sentir grignoté de l'intérieur?
Et la solution hybride qui consiste à partir quelque temps pour écrire.
Oui, bah moi j'ai envie de partir tout le temps. Mais voilà, moi j'ai un mois où avant, dans ma vie de famille classique, j'avais toujours mes 20 dédicaces qui me tiennent à cœur, mais c'était plus réparti sur l'année. Et donc vraiment, je sentais qu'il y avait des jours où j'avais un peu la flemme de partir de chez moi, de mon petit cocon, j'avais un peu la crève, et je me dis, faut que je fasse un trajet qui est hyper long. Donc ça, c'était... Quand on est chez soi, par contre, on a du mal à repartir. Et surtout, mon mari m'avait dit « Mais en fait, t'es jamais là ». Et c'est vrai que 20 week-ends sur 53 semaines, rapidement, l'impression générale, c'est que je suis pas là. Donc je lui ai dit « Très bon point. Du coup, le mois de mars, je ne serai pas là. Mais tout le mois de mars. » Donc là, avec les vacances scolaires, j'ai décalé jusqu'à mi-avril. Donc je repasse quand même un petit peu par la maison. Mais au moins, c'est acté. Et maintenant, j'ai ma mère qui est en soutien. Du coup, j'ai zéro culpabilité. Elle est à côté et puis elle prend les enfants régulièrement, etc. Donc, mais avant, la culpabilité, c'était ma troisième meilleure amie. Donc là, ça y est, je ne l'ai plus. Et en plus, voilà, je rentre chez moi à la fin au mois d'avril, je vais rentrer tranquillement. Et ensuite, je pourrais être à 1000% à la maison tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et mais les enfants, là, en ce moment, ils s'en donnent à cœur joie à me dire « T'es jamais là, et en plus, quand t'es là, tu sers à rien. » Merci. Ah, mais parce que le jour, mon fils voulait que je l'aide pour les devoirs, et puis j'ai regardé, genre, mais ça, ce truc-là, je sais pas. Il fait, ok. Donc voilà, donc feedback is a gift. Voilà, donc non, mais c'est pour ça. Et ce qui est marrant, c'est que dans ce roman-là, j'ai anticipé plein de trucs. Là, mon fils aîné qui est au collège, il va faire un exposé sur un de ses parents, et il vient de me dire qu'il voulait faire sur sa mère. Donc c'est... Et je l'ai déjà mis dans le roman pour Louise. Mais ça, je l'avais inventé. Donc c'est pour ça que moi, vraiment, le curseur, je le bouge comme je veux, parce que je sais que ça va arriver.
Oui, mais c'est terrible, parce que dans le roman, on dit « bah, je sais pas trop ce que fait ma mère, en fait ».
Oui, et en vrai, mon mari est tout le temps enfermé dans son bureau, il travaille tout le temps, etc. Et moi, quand il rentre de l'école, bah, je suis jamais dans mon bureau. À partir de 16h, c'est fini. De toute façon, je peux pas mettre mon cerveau, je peux pas travailler un roman avec des enfants à côté. Donc eux me voient pas bosser. Donc ils me disent juste, c'est cool, les métiers faciles, quoi. Sauf que vraiment, moi, je vois que je mets le réveil à 3h du matin, genre les deux dernières semaines, quand vraiment je suis un peu à la bourre. Là, cette année, j'ai pas eu de Noël. Hein. Vraiment, j'étais trop en retard pour celui-ci. Donc, ouais, du 24 décembre jusqu'au 15 janvier, 3h du mat, et puis hop, je les emmène à l'école, et eux, ils voient rien. Je décerne comme ça. Et à chaque fois, je prie, je fais, faites que je chope pas la grippe, faites que je chope pas une gastro, faites que je chope... Parce que sinon, je pourrais pas finir mon roman. Et donc, ça va.
Finalement, est-ce qu'il faut pas être un peu égoïste pour être
Il faut écrivain? Complètement. Ouais. Mais il faut, en fait, c'est même pas... Le mot égoïste est moche et toujours ouais. Porteur de... Comme si on n'aimait pas les gens. Enfin, si je n'aimais pas les gens, j'écrirais mon roman, je ne viendrais pas rencontrer les lecteurs. Enfin, je pense vraiment. Par contre, c'est juste se remettre au centre de sa propre vie. Je ne serais pas une bonne mère si je suis une mère qui sacrifie tout pour eux. Parce que je leur en voudrais. Et ils le ressentiraient. Par contre, une mère très au centre de sa propre vie, qui aime regarder des films avec ses fils, et c'est moi qui choisis les films, qui aime jouer aux jeux de société avec eux, mais c'est moi qui choisis les jeux, etc., on est tous contents parce qu'on fait des choses ensemble, mais j'ai pas à subir. Enfin, moi, j'ai jamais pu les emmener au parc. Alors, c'est tout le monde dire « Comment c'est possible ?» Ben non, moi, le parc, je cherche la corde. Je me dis, elle est où? Non, c'est pas. Enfin, parce que je veux faire des choses qui me correspondent. Et eux veulent juste passer un temps de qualité avec leurs parents, qui les écoutent. Donc, on a trouvé un système qui, pour moi, fonctionne. J'espère pour eux aussi. Mais bon, pour l'instant, ça marche.
Alors, quels sont les thèmes qui vous motivent pour écrire? Quels sont les grands thèmes? Parce que ce livre, évidemment, parle beaucoup du milieu littéraire. Hein, donc, on apprend vraiment la vie quotidienne d'une écrivaine, enfin, de deux écrivaines, en réalité, avec cette différence d'âge qui fait qu'il y a un certain nombre de choses qui évoluent entre elles deux. Mais très rapidement, on sent quand même qu'il y a des sujets qui vous intéressent. Les inégalités, le féminisme, etc. Il y a sous-jacent, ça on le perçoit.
Moi, j'ai un sujet, enfin, on va dire... Il y a un thème qui parcourt tous mes romans, c'est la transmission, mais mon sujet, c'est l'injustice. Donc, sentir qu'il y a des questions qu'on me pose à moi en tant qu'écrivaine femme, qu'on ne pose pas à mon collègue, je trouve ça injuste. L'échec scolaire, alors que c'est un gamin qui bosse plus que celui qui est premier de la classe, c'est injuste. Voilà. Donc moi, je cherche toujours un sujet qui m'empêche de dormir, où je me dis... C'est pas juste, j'ouvre l'ordinateur, j'écris trois mots et c'est bon, je peux aller me recoucher. C'est en fait le lendemain, j'ai encore des trucs à dire et le surlendemain encore. Et pendant plus de 4, 5, 6 mois, bah, je suis intarissable et ça m'agace et j'y reviens et je veux que ce crayon soit une baguette magique, quoi. Qu'avec ça, on arrive à montrer et partager une vision du monde qui pourrait être un peu différente et un peu plus solidaire. Donc moi, mon thème, c'est l'injustice. Et donc on peut retrouver dans celui-ci plus de féminisme que dans les autres, mais même en voiture Simone, quelque part, c'est déjà féministe parce que c'était trois belles filles qui n'avaient pas envie de se laisser faire par le beau-père qui avait prévu de choisir toutes les règles de la famille. Donc, il me correspond.
Évidemment. Peut-être avez-vous des questions à poser à Aurélie Vallon, qu'on pourrait écouter des heures, mais je vois que la librairie me fait des gros yeux quand ça dure trop longtemps, parce qu'il faut aussi...
On va fermer à 19h.
Voilà. Voilà. Non, mais c'est surtout qu'il faut qu'on aménage un peu de temps pour cette relation particulière avec la période dédicace, bien entendu. Alors, qui a envie de poser une question ? Madame.
Je voudrais savoir, c'est vous qui choisissez le titre de vos romans, et pareil pour les couvertures ?
Oui.
Enfin, les couvertures,
oui. Bah, en fait, je le brief, mais après, je le brief, mais je suis très... Ouais. Donc oui, c'est moi qui choisis les titres de mes romans et c'est moi qui choisis les couvertures. Et ça, dès le premier jour, parce que Mémé dans les orties, donc je m'étais auto-éditée, j'avais gardé mon titre et ma couve. Et en signant le premier contrat chez Michel Lafon, j'avais mis une petite clause en disant « je garde la main sur le titre, enfin, je garde la décision finale sur le titre et sur la couverture ». Et ça, je ne l'ai jamais enlevé de tous mes contrats, parce qu'à la fin, c'est moi qui me retrouve ici à signer un livre qui doit, où je ne dois pas avoir honte. Et je ne dois pas me dire, ah mon Dieu, il y a un corps de femme qui me... Qui... Non, en fait, j'ai des lecteurs hommes.
Parce que j'avoue que, franchement, enfin, bon, je ne sais pas, il y a peut-être beaucoup de gens qui font comme moi, mais je trouve que l'approche du roman avec le titre, oh, tiens, ça doit être pas mal. Et puis la couverture joue beaucoup. Et
oui.
Elle sort qui est de l'ordinaire, d'être un petit peu moins
assez
classique, mais elle sort de l'ordinaire et je trouve que c'est accrocheur.
Oui.
Et rien que ça, ça fait... on a un sentiment de curiosité, on va aller les regarder...
Oui, et puis en plus, moi, j'avais pas du tout envie... Alors déjà, comme je l'ai bidouillé toute seule la première fois, j'ai fait avec ce que je pouvais piquer de gratuit. Donc j'avais pris un fond Vichy, j'avais mis sur Paint avec un rectangle que j'avais tiré, j'avais écrit dans un document Word, copié-collé. Enfin, vraiment, j'avais tout bidouillé. Depuis, c'est plus du tout artisanal comme ça. Mais non, puis j'avais envie que ça me corresponde... un, à moi, et deux, au contenu du roman. Donc le premier, Mémé dans les orties, racontait mon grand-père, et mon grand-père, à chaque phrase, il fait des expressions comme ça. Chez lui, il y avait vraiment les serviettes de table et la nappe avec les carreaux. Donc c'était évident pour moi que c'était ça. Après, je l'ai gardé parce que ça m'a porté chance, et que je ne savais pas ce que les lecteurs avaient particulièrement aimé. Est-ce que c'était l'histoire seulement, ou aussi le titre, ou aussi la couve? Donc je me dis, tant que je ne sais pas, je garde, en faisant des variantes. Et puis un jour, je me suis dit, est-ce que tu n'es pas en train de te pasticher? Parce qu'en fait, tu vas faire quoi? Le prochain titre, ça va être « Il pleut sous ma caboche ». Enfin, non, j'en sais rien, mais voilà, on peut inventer des titres. Et puis le Vichy, si ça ne communique pas une certaine forme d'émotion, ça ne me touche pas et donc j'ai plus envie d'y aller. Et le quatrième roman, j'ai vraiment, quand j'ai vu ce qu'on me proposait pour Au petit bonheur la chance, je me dis, ah, c'est mieux qu'avec le Vichy. Voilà, on va abandonner le Vichy. Mais c'est des petites décisions qui, moi, m'effraient au plus haut point, parce que j'ai toujours l'impression que potentiellement, il y avait des lecteurs qui me suivaient et d'un coup, je prends un pari énorme de je vais tous les perdre. Mais chaque année, je modifie des choses. Et là, c'est la première année où j'ai pas le cadre. J'ai flippé. D'enlever mon cadre, je me dis, ils vont jamais me reconnaître. On va dire que Valogne, au bout de 10 ans, peut-être que ça va leur dire quelque chose. Mais vraiment, j'étais pas complètement convaincue. Mais c'était tellement moche avec le cadre blanc que je dis, non, je m'embête pas à faire une couve couleur encre pour parler d'écrivaine et me mettre un truc blanc qui fait comme une verrue. Donc je l'ai enlevé. Mais donc, c'est bien moi, les couves et les titres. Oui ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Soyez pas timide.
Oh, avec une auteure aussi bavarde, je ne peux pas imaginer qu'il n'y a pas de questions.
Ah, ils sont trop timides. Après, on peut parler aussi pendant la dédicace.
On peut dire plein de choses.
Moi, je crois qu'à 19h, il faut fermer.
Je peux en trouver plein de questions. Voilà. Vous êtes sûr? Ça alors? Ah, ça y est, une main se lève.
Alors, ça dépend... de deux choses, ça dépend de l'écrivain, écrivaine, ou et du lecteur. Pour moi, la taille de chapitre, c'est un chapitre quand j'écris où je m'essouffle pas, parce que notamment les premiers romans, j'avais quand même un enfant qui grattait à la porte. Et là, je me dis, il faut que je finisse mon chapitre. Et donc c'était des chapitres assez courts. Et en fait, moi j'avais aussi, comme j'avais un métier au début à côté, j'avais besoin de me voir avancer. En me disant, aujourd'hui je devais faire le chapitre 3, 4 et 5. Bon bah, idéalement ils font 3 pages chacun, ça va aller assez vite. Donc mes chapitres à moi, si on regarde les premiers romans notamment, c'est toujours à peu près 3 pages, à peu près. Et c'est pas calculé, c'est juste que moi je sais que je m'essouffle dans les grands chapitres à écrire, alors qu'à la base, un chapitre égale une idée et un rebondissement. Donc je vais pas le faire en 50 avec plein de descriptions si j'en ai pas vraiment besoin pour mon intrigue. Et puis donc j'ai gardé ça, et il se trouve quand même que les lecteurs ont l'air de me suivre sur des chapitres courts. Donc heureusement, ça matche aussi moi ce que j'aime en tant que lectrice, mais c'était pas calculé. Donc il n'y a pas une règle absolue, mais c'est vrai que j'ai encore du mal à pas numéroter mes romans. Là par exemple, c'était des lettres, je me suis dit, allez, on vire tous les numéros. Et je fais, ah non, mais même moi je m'essouffle dans la lecture, je vois pas que j'avance. Donc je mets 1, 2, 3, ce qui est un peu scolaire, mais ça m'aide. Et pareil, j'ai mis 9 parties, alors à la base il y a 3 parties, après je me dis, oh non, 5 parties. Puis genre deux semaines avant de le rendre, je fais, en fait on va avoir 9 parties. Et là je dis, mais je recule en fait, plus j'avance dans l'écriture, plus je recule de mon objectif, c'est horrible. Mais j'avais besoin de mes 9 parties parce que j'avais, dans la découverte de Madeleine, 9 rebondissements. Et j'avais envie quand même qu'on tourne la page et se dit, oh non, maintenant que je sais ça, il faut que je lise la suite. Donc voilà, donc il y a un peu de quand même de construction dans ma tête au départ.
Oui. Mais en même temps, avec le côté épistolaire, vous avez vachement de liberté parce qu'il y a des chapitres hyper courts.
Oui.
D'ailleurs, moi, je recevrai des lettres où il y a une ligne.
Alors, j'en ai gardé très peu des comme ça.
Ouais, mais il y en a.
Il y en a une. Il y a un moment donné, quand elle est au fond du gouffre, Louise et Madeleine lui disent, mais si c'était si facile, tout le monde le ferait. Parce qu'elle n'arrive plus à écrire et Madeleine lui envoie juste ça. Mmh. Et je me dis, ça peut arriver. Parfois, on a besoin juste d'une tape sur l'épaule de quelqu'un sans faire une montagne. Et donc, j'en ai pas gardé beaucoup. Au début, il y en avait un peu plus.
Ouais, mais ça, c'est un format mail, justement. C'est pas un format papier.
Oui, c'est même un format WhatsApp.
Aussi, oui.
Oui, donc oui, mais voilà, j'avais envie, et puis on a le droit parfois juste, on a une pensée pour quelqu'un, on a le courrier, on met le timbre et ça part. Et parfois on peut même avoir des jolies cartes postales et on a une pensée. Là je raconte pas si c'est une petite carte postale, mais d'avoir la carte postale ça aurait pu être pas mal.
Je sens de la nostalgie à travers cette écriture, les cartes postales et tout.
C'est
ça.
Une vraie nostalgie, et d'un autre côté je me souviens que ma mère me forçait chaque vacances à écrire des lettres à toute la famille, et je détestais ça.
Et vous saviez quoi mettre sur les cartes postales?
Non,
parce que moi, ça a toujours été mon angoisse
non,
complète.
Non, en plus, c'était pour dire, nous sommes bien arrivés en vacances, il fait beau, je prends des coups de soleil, parce que j'ai une peau qui prend des coups de soleil. Je mange bien, je m'amuse, je n'ai pas beaucoup de copines, je ne me baigne pas, j'ai la peau qui me pique. Non, vraiment, c'était nul. Non, non, donc moi, j'aimais pas trop les cartes, mais j'ai cette nostalgie quand même. C'est-à-dire vraiment d'aller à sa boîte aux lettres et pas trouver des prospectus et des factures, quoi. Et d'avoir quelqu'un qui a pensé à soi. Et donc voilà, donc non, j'ai quand même cette nostalgie.
Alors, question, toujours pas.
S'il n'y en a pas, on va passer aux dédicaces, hein. Ça ne me dérange pas. Oui, d'accord.
Oui, oui.
Les gens veulent rentrer chez soi.
Il y a une forme d'attente intéressante.
Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment pour votre écoute et vos pas questions. et puis, je serais ravie de discuter avec vous.
Ben, merci à vous.
Merci,
et puis, du
Olivier.
Coup, aujourd'hui, non, je ne savais pas si je faisais l'interview de l'écrivaine, ou qu'on parlait vraiment du bouquin, mais je me rends compte que les deux sont tellement intimement liés que c'est impossible de
trancher. Mais je ne ferai pas 50 livres sur l'écriture, je vous rassure. Mais par contre, ça sera toujours plus intime, je pense. L'idée, c'est qu'on n'a rien à se cacher.
Voilà. Et donc, du coup, vous avez déjà des idées?
Pas du tout.
Pas du tout.
Ah non, je pense que je veux garder le jeu.
Oui.
J'aime bien le jeu. J'aimerais arriver à ne pas avoir un double jeu. C'est-à-dire tenir une intrigue, parce que ça, je ne sais pas le faire, de A à Z avec quelqu'un qui raconte. Mais qui raconte quoi? Je ne sais pas.
La contrainte? Vous en parlez un moment, de la contrainte?
Oui, ma contrainte, c'est déjà le temps. C'est-à-dire que je sais que ça part chez l'imprimeur le 15 janvier. Donc, il faut que je le fasse lire à mon éditeur le 29 novembre. Ce qui est un peu short.
Oui,
donc,
je pense à la contrainte, on enlève une lettre ou des choses comme ça.
Oui, je n'ai pas trouvé exactement ma contrainte pour l'instant. Ça pourrait être, moi j'aimerais bien trouver des nouvelles formes, donc je ne vais pas faire un truc en vers libre pour faire un truc en vers libre. Mais si c'est la bonne forme pour l'histoire, j'irai, je plongerai et je me dirai, faites qu'ils me suivent. Mais non, pour l'instant, je n'ai pas tous les éléments. Mais dans le roman, à un moment donné, Louise, elle a une idée qui est pas mal, j'aurais pu plonger et écrire exactement comme elle, sauf que j'ai un peu l'impression que le sujet de son livre Ben, c'est un peu déjà le sujet de la lignée aussi pour moi, donc on verra. Mais vous allez certainement me donner des bonnes idées.
Voilà. En tout cas, en attendant, puisque vous êtes peu nombreux à l'avoir lu, la lignée, c'est chez Fayard. On y retrouve donc, c'est vraiment cet échange entre Louise et Madeleine, intergénérationnel. On apprend plein de choses. On ne sait plus au bout d'un moment à qui on a affaire, mais c'est
Aurélie du passé qui parle à Aurélie du futur.
Oui, il y a un peu de ça, c'est ce qui rend vraiment ce bouquin passionnant, parce que moi j'ai l'impression de vous connaître, alors que ça fait à peine une heure qu'on est ensemble.
Vous savez tout de moi.
Oui, absolument. On aurait presque pu vous entendre une heure de plus, mais on laisse le temps à la délicatesse. Je vous remercie de votre présence cet après-midi.
Merci infiniment, merci à vous. Merci beaucoup. Merci.